Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, nous allons ouvrir un passage de notre Bible. C'est une parole de Jésus. C'est un message prophétique. Alors on va parler justement des prophéties et particulièrement de leur réalisation dans le temps qui est le nôtre. Ça peut être intéressant, hein? Comme d'ailleurs tout ce que nous avons dans notre Bible. On a chanté tout à l'heure « J'ai confiance en toi ». J'ai confiance en toi parce que c'est Jésus qui l'a dit. J'ai confiance en toi parce que c'est écrit dans la Bible. Et tout ça, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, tout ça est un peu brouillé. Il y a une part, finalement, de vérité. Mais il y a beaucoup de légendes, beaucoup de contes, beaucoup d'histoires. Beaucoup, et on va en parler d'ici quelques instants, de fake news. Vous savez ce que c'est ? Voilà. Ça, c'est notre temps. La Bible a toujours été le livre de l'actualité. Et nous savons que les choses se font progressivement. L'histoire avance. Et chaque élément des époques, des temps, que ce soit les temps de paix ou les temps de bouleversement, de guerriers ou autre chose, eh bien, il y a toujours quelque chose qui finalement, eh bien, petit à petit, très très lentement, se met en place pour la réalisation complète et totale de ce que Jésus nous dit et que nous allons voir d'ici quelques instants dans Matthieu chapitre 24 et verset 12. Je ne vais pas lire tout le chapitre, vous le connaissez, mais il y a des éléments qui sont intéressants. Alors, Matthieu 24, 12 à 14. Et nous allons nous y reconnaître. Et parce que l'iniquité, nous dit Jésus, et parce que l'iniquité, le mal, se sera accru, bien sûr, parlé dans les fins des temps, dans la fin de l'histoire de l'homme, l'amour, ou la charité, selon les traductions, du plus grand nombre, se refroidira. Il y a deux choses qui sont antinomiques, c'est-à-dire l'amour, la charité et l'iniquité. Voilà, c'est la configuration du monde de toujours. Et cela depuis les temps immémoriaux, lorsque nous lisons le premier chapitre du livre les premiers chapitres du livre de la Genèse, il y a bien les deux qui sont en présence, il n'en existait qu'un, l'amour et la charité. Et puis est venu le chapitre 3 que nous connaissons, où là, c'est une autre affaire. Et l'amour et la charité se refroidira. Alors à vous de juger maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, est-ce que nous pouvons constater le plus ? Est-ce que c'est le péché, le mal, l'iniquité ? Ou est-ce que c'est une effusion d'amour entre nous ? Hein ? Et puis dans le monde, surtout dans le monde. Alors je donnerai un complément, une lecture seulement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a souvent été fait. Mais dans 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 1 à 5, vous le connaissez bien. Et c'est véritablement un flash, c'est vraiment un zoom sur le monde dans lequel vivait Jésus, dans lequel vivait Paul quand il l'a écrit, et puis également le monde tout à fait approprié qui est le nôtre. L'apôtre dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, les temps derniers, c'est-à-dire l'eschatologie, où Jésus revient bientôt. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tout va bien jusqu'à maintenant. » C'est pas écrit, hein, c'est moi qui le dis. Des temps difficiles. « Car les hommes seront égoïstes. » Et c'est toute une énumération morale, du caractère moral des hommes. « Alors ils seront égoïstes. » Ils seront amis de l'argent, tiens, ils seront fanfarons. hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, tout va bien dans les familles, ingrats, irreligieux, tout le monde est à la messe aujourd'hui, insensibles, déloyaux, j'ai une parole mais je la change pour une autre, calomniateurs, intempérants, c'est-à-dire d'une grande impatience. Ils seront cruels, regardons sur les frontières de l'Est de l'Europe, ennemis de gens de bien. Ils seront traîtres, ça a toujours existé. Ils seront emportés, soupolés, enfin, tout ce que vous voulez. Enflés d'orgueil, moi, aimant le plaisir plus que Dieu. Et la dernière phrase, ayant l'apparence, le semblant, ayant l'apparence de la foi, de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors voilà ce qu'il nous est dit. Quel monde étrange dans lequel nous vivons. Ouais. Alors, on ne peut pas dire qu'on manque d'informations. Hein, ça vient d'en haut, ça vient d'en bas, de droite, de gauche, du nord, du sud, enfin de tout ce que vous voulez, de l'Orient ou de l'Occident. Il y a là une profusion d'informations. Personne ne peut dire, même s'il ne veut pas l'entendre, même s'il ne veut pas le voir, même si véritablement, eh bien, il est dans le déni. Non, ça n'existe pas. C'est pas possible. Eh bien, une chose qui est certaine, c'est que nous vivons dans ce monde d'étrangeté. C'est étrange. Alors, il y a, bien sûr, ceux qui ferment les yeux et les oreilles, et puis il y a ceux qui sont traumatisés aussi par le phénomène de ce qu'ils entendent, comme notre ami Lot dans les jours de Sodome et Gomorre. Il tourmentait son âme jour et nuit. Vous connaissez les choses. Un monde étrange. J'aimerais simplement, alors ça va être peut-être d'un caractère un peu particulier aujourd'hui, peu importe, hein, c'est l'actualité. Et on est tous là à même de pouvoir juger de la chose. Si je me trompe, venez me voir en disant, ben écoutez, non, on s'en va vers l'âge d'or. Hein. Regardez les performances, regardez les choses extraordinaires que le monde est capable de faire. Intellectuellement, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je parle sur un autre plan. Tout à l'heure, j'ai cité le mot « fake news ». Ça, c'est un mot nouveau qui a été inventé par M. Trump. Qu'est-ce que je dis? Ouais, les journalistes. Hein. Alors, les temps de fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles que l'on fait apparaître comme vraies. Et puis les vraies que l'on déforme pour que véritablement, eh bien, les gens n'y voient que gouttes. L'autre jour, avec mon épouse, un nouveau mot est sorti, c'est pas avec elle hein, seulement, mais c'est parce qu'on regardait les informations, et on parlait des « deep fake news », des « deep news ». C'est-à-dire, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement l'hypertrucage. Ah oui, voilà, hein? « Deep news », l'hypertrucage, pour faire penser que quelque part une chose peut être vraie, mais en réalité, elle est fausse, elle a été construite par un esprit déviant, on pourrait dire peut-être pervers. Voilà, l'hyper-trucage, pour penser que les gens, eh bien là, on leur présente ce trucage, mais ils n'y verront que goutte, comme on dit, hein, ne parlez pas de goutte. C'est sorti comme ça, sans savoir. Voilà, l'hyper-trucage. Et puis vous savez qu'on est dans une situation où toute la vie est dématérialisée. Ah oui, hein. Et là, on est en train de... Et c'est un grand souci pour ceux qui ne sont pas à l'heure du numérique. Hein, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même assez ennuyeux tout ça. Hein. Parce que, bon, les papiers, on avait l'habitude d'écrire, on avait l'habitude de conserver, on avait l'habitude de toutes sortes de choses semblables. Et c'est quand même assez ennuyeux tout ça. Hein. Eh oui. Hein, même peut-être les plus expérimentés hein, se questionnent. Donc la dématérialisation de la vie, on est plongé dans ça. Et que de dire, moi j'en veux pas, mais vous n'avez pas le choix. C'est comme ça de toute manière. Et puis, si je vous parle depuis quelques années, on a sorti un mot qui s'appelle le transhumanisme. Ouais, ouais, c'est en politique, hein, on essaie de... finalement glisser de plus en plus, essayer de préparer la pensée, l'esprit des hommes humains, mais Il y a également, eh bien là, quelque chose où on veut faire mourir l'âme des hommes, le cœur. Hein, c'est pour ça que nous l'avons lu tout à l'heure, la charité se refroidira, le sentiment se refroidira, le cœur, finalement, n'aura plus sa, son rôle d'être le centre, quelque part, de l'homme, en quelque sorte. Hein. Donc, le transhumanisme. Vous avez entendu parler de l'IA, intelligence artificielle. Voilà. Alors là, ça se mélange avec le transhumanisme et tout ça, etc. Et on est en train de le vanter comme vraiment le monde, le bonheur hein, de demain, la paix entre les hommes, des recherches qui s'avèrent véritablement utiles. Je pense en chirurgie, en médecine, en toutes sortes de choses, dans les choses les plus pointues. Oui. Hein? L'intelligence artificielle. Et puis, vous avez certainement... vous intéressez aux élections. Vous savez qu'aux dernières élections, il y a un certain candidat à la présidence de la République a lancé une nouvelle mode, c'est l'hologramme. Voilà. Alors il prêchait dans une ville, hein, admettons Rennes, et puis dans différentes villes, il était partout. Enfin, partout où il avait installé naturellement ce système. Et les gens qui regardaient, par exemple, moi je ne sais pas, à Toulouse, ils disaient, mais il est là, il est devant nous, il n'y a pas de problème, c'est lui, il n'y avait pas de défaut. Hein. Donc, ce système de communication, et vous savez ce que c'est que l'hologramme? C'est tout simplement l'écriture par l'image en relief, c'est photographique, hein, en quelque sorte, en 3D, et c'est une illusion, c'est un mensonge, parce que la personne n'allait pas là. Et quand même à faire revivre des gens qui sont morts depuis 50 ans, eh ben c'est la même chose. On dit, mais il est revenu, il est ressuscité. Et il est là, finalement, au milieu de nous, mais il n'est pas mort. Et on va nous faire croire que la mort n'existe pas, ou elle n'existe plus. C'est quelque chose, hein. Ah, j'ai vu le général de Gaulle à la télévision. Mais il est revenu. Alors, j'espère qu'il ne revient pas avec 68, hein, parce que... On recommence tout. Enfin bon, c'est les petites réflexions, voilà. Donc, l'illusion, et c'est virtuel, c'est ce qu'on appelle le monde virtuel. Mais où est l'homme dans cette affaire? Qu'est-ce qu'il est devenu, l'homme, dans cette affaire? Heureux, malheureux, pauvre, riche? Qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Puisque tout est contrefait. C'est la contrefaçon. Tiens, la contrefaçon, ça vous rappelle pas? Finalement, eh bien, les paroles d'un certain perfide animal, mais vous serez comme des dieux, mais vous ne mourrez pas. Regardez cet arbre, il est bon, il est beau, alors allez-y, profitez-en, etc., etc. Donc, les fake news, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui. Avec, naturellement, hein, assis et reposant sur le mensonge. Le virtuel. Mais le virtuel... Tout le monde le comprend, parce que les mots ont un sens. Ce n'est pas le réel. Alors, bien sûr, certains vont critiquer en disant « ils ne veulent pas avancer, hein, ce sont des ânes, ils sont en train de finalement freiner l'évolution de l'homme, mais l'homme a reçu une intelligence illimitée, etc. » Alors moi, je suis tout à fait d'accord, si c'est pour le bien, si c'est pour la bénédiction de nos semblables. Si c'est véritablement une grâce qui descend sur le monde pour que tout le monde soit heureux, que tout le monde puisse manger à satiété, qu'il n'y ait plus de guerre, ceci et cela, mais on n'est pas contre, au contraire. On est contrairement oublié. L'essentiel et le principal, c'est la personne de Jésus qui donne la vraie vie. Et là, c'est le bien du réel. Alors on prend la boîte, on prend la, de plus en plus, on entend dans les commentaires bibliques, que finalement la Bible c'est une légende et un conte. Quand on nous parle de Noé, quand on nous parle de la traversée de la mer Rouge et tout ça, vous voyez la confusion? Et elle s'installe de plus en plus. Et vous savez, il y a de plus en plus eh bien, de positionnements bibliques qui ne sont que des mensonges, en se servant de la Bible. Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Ben oui, il est ressuscité. Mais il y a des gens qui disent non, non, c'est un trafic. Est-ce que vous croyez que l'eau a été changée en vin? Mais non, certainement, c'est pas possible, ça. Et puis, voilà, toutes sortes de choses. Cette période que l'on appelle la période du distanciel. Alors, ça se mélange, tout ça, naturellement. Voilà. On est capable de conquérir des foules immenses. Les gens, ou le prédicateur, ou l'orateur n'est pas là. Mais ce sont quelquefois maintenant, on réunit ce que le monde n'a jamais connu. Des milliers de personnes, soit pour de la musique, soit pour des grandes messes, hein, on peut le dire aussi. Hein. Et puis toutes sortes de choses, on peut les compter par millions. Et dans l'instant T, eh bien, les gens peuvent savoir ce qui se passe ici, à Paris. Et puis la même chose à Pékin, à Moscou, dans d'autres régions. La conquête des foules. Et ça, c'est l'apothéose de la puissance et, de pouvoir, et le pouvoir de l'image. Eh oui, pouvoir de l'image. Et quand je parle de pouvoir de l'image, je parle du pouvoir animé de l'image. C'est pas seulement de la bande dessinée, mais une image qui est animée. Ça vous rappelle pas ? Où c'est écrit assez souvent dans un livre de la Bible, livre de l'Apocalypse. L'image animée, où ce sont des foules, où ce sont des nations qui vont véritablement être en contemplation, qu'est-ce que je dis ? C'est un euphémisme. En adoration, devant ces choses. Et vous savez comment elle s'appelle cette image dans le livre de l'Apocalypse ? La bête. Ils adorèrent la bête et son image, le système politique, religieux, philosophique, intellectuel, scientifique, culturel, la bête. Et tout cela est associé à l'apparence. Vous avez vu ce qu'on a lu tout à l'heure ? Il est dit, ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. La force, la foi, pas dans n'importe qui, mais celui qui est le même aujourd'hui, hier, éternellement, à travers tous les temps, la personne de Jésus-Christ, ressuscité, vivant. Ça, c'est quelque chose. L'apparence de la foi. Alors, on va aller un peu plus loin et on va essayer de voir un petit peu ce qui peut correspondre à ce que nous avons dit ce matin, déjà, dans le monde dans lequel nous soi-disant évoluons. Il faut savoir si c'est une évolution ou si c'est plutôt... des révolutions, il y en a. Mais plutôt une dévaluation, en quelque sorte. Quel monde étrange. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Parce que on entend partout des cris et des sanglots, des appels à la détresse. Il y a des images qui sont insoutenables devant notre petite fenêtre, vous savez, qu'on appelle la télé. Il y a une jeunesse et des enfants qui ne se sentent pas bien dans leur vie et qui, chose inimaginable, quelquefois met un terme jeune à 10 ans, 12 ans, à leur vie. C'est incroyable, ça c'est certain, et qui se donnent toutes sortes de soit mortifications, qui ne peuvent pas évoluer normalement parce qu'on s'est moqué d'eux, parce qu'on en a fait des cobayes. Oui, c'est ça. On les martyrise. Hein, et c'est quelque chose, et particulièrement dans le lieu qui doit être un lieu sacré, l'école, pour apprendre la vie, pour apprendre à vivre, à vivre. Et nous voyons que tout cela, ce genre de phénomène, même déjà dès le départ de l'existence, ça prend des allures parfois, souvent anti-naturelles, infernales, pardon, pour s'y intégrer. Et ça, c'est quelque chose qui part mal dans notre génération. L'instruction qui est donnée, les images qui sont fournies, et nous voyons qu'il y a des choses que les enfants ne peuvent pas supporter. Il y a des choses qu'ils s'apprennent et qu'ils précocement intègrent, alors que c'est de la fausseté. Même dans les mœurs. Parce qu'on dit que le bien, c'est le mal, et le mal, c'est le bien, tout simplement, hein. Et puis il y a ceux qui se révoltent. Ce sont ceux qui veulent bouleverser la terre. En ce moment, il y en a beaucoup. Hein. Alors, quelle que soit la chemise, qu'elle soit jaune, qu'elle soit bleue, qu'elle soit rouge, enfin, c'est les bonnets, ça, et le rouge. Hein, et puis de toutes les couleurs que vous voulez, mais il y en a qui se révoltent et qui cassent tout, naturellement. Ce n'est pas un exemple de paix. Et puis il y en a d'autres qui s'enferment dans l'option fuite. Ah, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, etc. Moi, je me suis fait une petite maison en bois, là, dans tel endroit. Je suis tranquille, je m'occupe de personne, personne ne vient s'occuper de moi. c'est très bien comme ça, j'ai pas de ceci et cela. Moi, je voudrais quand même dire une chose au passage, c'est qu'il est important pour un chrétien de s'informer. Ah oui, parce que là, on va tomber de haut, hein, un moment ou un autre. Hein. Parce que si on veut dire qu'on a tiré un voile devant tout ça, eh bien, c'est pas nous qui allons vers. C'est tout ce qui va se passer qui va venir vers nous, hein, de toute manière. Comme une vague, vous savez, comme des tsunamis, là, ça nous... Alors, ils le font par indifférence, ou ils le font tout simplement, eh bien, comme s'ils se mettaient dans une bulle de protection. Tout simplement. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, il y en a pour tous les goûts, hein, il y en a pour tous les genres. Oublier, s'écarter, s'extraire de la folie d'un monde qui perd la tête et surtout qui perd son cœur. Eh oui. Puis il y a ceux qui éperdument s'étourdissent. Il y en a pas mal. Vous savez que là, on est dans la période des vacances. Moi, j'ai regardé un petit peu, mais très peu, les courses de taureaux en Espagne, là, vous savez, à Pamplune, hein, derrière la lune. Et également à Bayonne, là, ils étaient 2 millions et quelques à faire la fête. Et aujourd'hui, on nous dit que le Covid revient. Ben oui, c'est moi ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est moi des Facebook, des fake news ou je ne sais pas. Hein. Donc, ils s'étourdissent dans les excès, dans des plaisirs faciles. Ouais. Dans une existence vide et dénuée de but pour aller, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. On l'a lu tout à l'heure. On va aller un peu plus loin maintenant. On va rentrer un petit peu dans le feu de l'action. Nous avons besoin d'ouvrir les yeux devant les atrocités de la guerre. On ne sait pas tout hein, de ce qui se passe là-bas. Moi, je suis ni pour les uns ni pour les autres. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des malheureux, il y a des femmes qui sont malheureuses, il y a des mères qui sont malheureuses, il y a des enfants qui sont malheureux, qui sont broyés, qui sont là incendiés, qui sont là noyés, parce qu'on ne recule devant rien. Et je me dis que ça s'appelle de la cruauté, des atrocités, et ces dévastations. C'est le monde dans lequel on est, on ne peut pas dire le contraire. Des enfants qui au quotidien endurent les conséquences, ça c'est un autre volet, les conséquences de leurs parents irresponsables. On les met tout simplement jusqu'à 2 heures du matin à la rue parce qu'on a autre chose à faire, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a beaucoup travaillé. Ça je comprends. Je comprends qu'ils se retrouvent à la rue. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est pas normal que les parents ne remplissent pas leur... finalement, leur responsabilité de parents. Et l'exemple qu'ils trouvent peut-être dans le foyer. Toutes ces familles irresponsables et inconséquentes. Il y a aussi quelque chose qui est absorbé dans notre temps. Vous savez que moi, j'ai toujours été étonné que quand il y a un dealer ou un vendeur plutôt, un mafieux et tout ça, quand il se fait trucider, on en parle dans les journaux. On en fait grand bruit. À Marseille, depuis le début de l'année, je ne sais pas combien il y a eu de dizaines de jeunes, même des gamins, hein, tout ça. Mais alors on en parle, mais bien sûr qu'on en parle, parce que c'est la mort d'homme, bien sûr qu'on en parle. Mais moi je dis qu'il y a 600 000 personnes qui meurent en France tous les jours, alors bien sûr on ne va pas mettre ça dans les... hein. Mais le mal a pignon sur rue. C'est à celui qui, quelque part, eh bien, fera le plus gros coup. Dernièrement, là, il y a un bijoutier à Paris qui s'est fait complètement dévaliser. Il y en avait pour 2 ou 3 millions, je ne sais pas. Enfin bon, moi, je ne veux pas discuter de tout ça. Mais je peux vous dire que on saute sur les occasions quand ça peut faire du papier ou ça peut faire de l'image. Bien sûr. Hein. Donc, les bandits qui défraient la chronique des médias, des enfants devenus criminels. Parce qu'ils ont été baignés, parce qu'ils ont été encensés, parce qu'ils ont vu des exemples qui n'étaient certainement, eh bien là, pas de bons exemples. Et ils sont devenus à leur tour des criminels et qui ne font que reproduire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont été, de la manière dont ils ont été élevés. Moi, je ne suis pas un moraliste, je ne veux pas l'être. Non ? Mais il y a des choses quand même qui font que la société est complètement... déstabilisé, à passe les pieds par le plancher. Et on se dit, mais comment ça se fait tout ça? Alors on multiplie Naturellement, les gendarmes, les policiers, on multiplie les juges, on multiplie ceci et cela, et on nous dit aujourd'hui qu'il manque des milliers, ou des centaines en tous les cas, de places en prison pour les mettre tous. Alors on les relâche. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent. Ils recommencent tout simplement. Hein. Parlons du gâchis mondial maintenant. Parce que ça, c'est aussi des choses. Quand on apprend qu'on se débarrasse des excédents de récolte, ou que dans certains pays, on a bloqué les ports pour qu'une partie du monde extérieur ne puisse plus avoir de riz, ne puisse plus avoir de blé, et ceci et cela, où on coule des bateaux qui sont chargés avec des centaines et des milliers de tonnes et qui passent là dans le fond de la mer Noire, parce que finalement, eh bien, il y a un conflit entre deux peuples producteurs finalement de céréales, et que là on pense qu'on va gagner la guerre et qu'on va finalement révolutionner le monde par la faim. Ouh, aïe, aïe. Moi quand je m'aperçois que je lis la Bible et que je me tourne vers ce Dieu de grâce et de miséricorde, créateur de l'homme, pour le bien de l'homme, et de voir ce qu'on est en train de vivre et de faire, mais c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents. Ouais. Excédent de récolte, alors que quelque part dans le monde, des hommes, des femmes, des enfants sont squelettiques. Ils meurent de faim. C'est terrible. Alors bien sûr, on en parle. On en parle. Mais pas pour donner des solutions, pour constater les faits qu'on est impuissant. Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. Jean, chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Et puis, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans l'écriture de Paul, il y a l'égoïsme monstrueux. Tant que ça ne nous dérange pas, on peut toujours donner, on peut toujours faire des choses, ceci et cela. Mais à partir du moment où ça nous prend à nous, on est peut-être un peu moins généreux. Et bien que je reconnais, je voudrais le dire pour que ça ne soit pas finalement et bien là une controverse, mais moi je dis que dans notre pays de France, on donne beaucoup. Et bien sûr, paradoxalement, les Américains donnent beaucoup. Mais là, c'est paradoxal. Parce que bon, ils sont quand même un peu les gendarmes du monde et tout ça, ils sont pris ici, ils sont pris là, etc. Oui, les pays riches, les pays voilà, d'une certaine capacité économique, donnent. Et pourtant, c'est jamais assez quand ces dons ne sont pas déviés, ne sont pas quelque part saisis au passage pour enrichir certains dictateurs. Ou, voilà. L'égoïsme monstrueux de l'humanité vivant confortablement dans l'indolence, avec des palais, avec tout ce que vous voulez, par-delà les avertissements qui leur sont donnés. Parce qu'on les tient en place, parce qu'on sait très bien que s'il est remplacé par quelqu'un de pire, qu'est-ce que ça va donner ? On continue sans vergogne à polluer tout simplement la planète. Mais on y va, on pompe. On pompe. Sur le plan de la moralité, la moralité dont l'évocation du nom « moral » apparaît comme une plaisanterie. La morale. Qu'est-ce que c'est que la morale dans un monde d'immoralité ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas grand-chose. Ça apparaît comme une insulte à la liberté de vivre comme on l'entend. Eh oui, tu te mets derrière ta morale, mais ça ne t'empêche pas de, parce que ça c'est la nature humaine. Voilà. Jésus avait maille à partir avec les pharisiens. Hein. Il leur a dit, bande d'hypocrites, de comédiens, d'acteurs, vous jouez un rôle pour avoir bonne mine devant le peuple, mon peuple d'Israël, mais finalement derrière, c'est pas tout à fait ça. Hein. Oui, vivre comme chacun nous on l'entend, alors on peut toujours se revêtir d'un manteau de respectabilité, mais finalement faire ce qu'on en veut, qu'on veut. Moralité, des enfants sans père, ouais. Soit par l'effet de guerre disparu, ou soit parce qu'on a quitté le foyer, parce qu'il y a ceci et cela, moi, encore, je ne veux pas juger, mais je constate. Voilà, des mères célibataires, il y a des jeunes filles, ou des femmes qui sont prisonnières d'un marché dont on peut taire le nom, dont on ne veut pas parler mais qui fonctionne. Alors, admirablement, excusez-moi le mot admirable. Ouais, il suffit de voir même dans nos pays occidentaux, ou même dans des pays d'une autre manière qui se veulent finalement, eh bien, avec une moralité, même une moralité religieuse, et qui, à côté de ça, ouvre les vannes pour faire couler le sang. Alors, hein, moralité intime, ou alors moralité guerrière, hein, qu'est-ce qu'il en est dans cette affaire? Mais, que dire de l'armement mondial? Ah, mais on fait des progrès en ce moment. Bon, on n'a jamais parlé autant de drones, autant de, comment ça s'appelle, de nucléaire tactique, hein. Hein, ou stratégique, enfin si ça nous tombe sur le nez, ça va peut-être faire des trous. Hein. Ça c'est possible, hein. Des brèches en tous les cas, et des grosses. Hein. Et puis de tous les, là c'est le rassemblement finalement de tous les marchés, du tank, de l'avion, enfin des avions de chasse hein, naturellement et tout ça. Ça n'a jamais été aussi, on embauche là actuellement, il n'y a pas de, dans les usines d'armement, il n'y a pas de problème. Hein. Ça fonctionne, hein. Pas de problème. Hein. Et c'est étourdissant dans ces capacités qui sont développées, c'est effrayant, effrayant de destruction aussi. Les fléaux de l'alcoolisme, et vous savez que dans le temps c'était le gros rouge qui tâche. Aujourd'hui c'est beaucoup plus raffiné, hein. Et là vous le trouvez dans tous les échelons de la société, hein. Même dans les universités et tout ça, quand on fait la fête, on fait la fête, hein. Et c'est pas avec du Coca-Cola pur, non. Il y a toujours quelque chose. Et puis, la drogue, jamais ça n'a marché aussi fort. Et puis, que dire de la violence gratuite? Agenouillée devant l'impudique Dieu. Comment il s'appelle ce Dieu impudique? C'est le Dieu argent. Et on l'appelle comment?
Maman.
Maman, bah, je vois que vous connaissez bien. Vous savez ce que nous dit l'apôtre Paul dans Galates? Je l'avais sélectionné pour qu'on puisse regarder ce qu'il est dit. Chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. C'est Paul qui donne là, l'avertissement. On ne se moque pas de Dieu. Autant qu'on veut, on peut se moquer des hommes, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ah tiens, ça pousse. Ben oui, parce que c'est une loi de la nature. Vous mettez une graine, eh bien attendez-vous, peut-être pas tout de suite, pas le lendemain ou le surlendemain, mais attendez-vous à ce que cette graine, elle pousse. Parce qu'elle a le principe de la vie, une bonne vie ou une mauvaise vie. Celui qui sème pour la chair, c'est-à-dire pour son moi, pour sa personnalité égoïste et tout le reste, comme on l'a lu, moissonnera de la chair la corruption, l'iniquité, le péché, la destruction, le jugement, la condamnation. Ah, c'est des mots qui sont assez durs. Mais celui qui sème pour l'esprit, avec un grand E, vous remarquerez, qui sème parce que son cœur est là-haut, son cœur est attaché à Dieu, son cœur est à Jésus-Christ. Et celui qui moissonne de l'esprit la vie éternelle, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien. Mes frères et sœurs qui écoutez, on n'est peut-être pas très nombreux ce matin, mais en tous les cas, vous l'écoutez, vous l'entendez, c'est important. Ne vous lassez pas de faire le bien. Devant cette vague impudique, devant ce tsunami qui arrive sur le monde, et on n'a pas tout vu. Hein. Moi, je ne voudrais pas vous faire peur, mais on n'a pas tout vu. Hein. Parce que l'homme a des capacités de destruction, de perversité, qui sont loin d'être exploitées. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous mousserons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, soyons persévérants dans notre fidélité au Seigneur. Eh oui, soyons persévérants. D'aucuns diront, certains pourraient dire, eh bien, qu'est-ce que Dieu fait dans cette affaire? Dieu en a vu, hein, de toutes les couleurs, en jetant les regards sur notre petite planète bleue. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui notre affaire. Hein. S'il y avait un Dieu, disent-ils, alors ça ne se passerait pas. Ça, c'est souvent la réflexion que nous entendons. Ah, votre Dieu, s'il y avait un Dieu, ça serait autrement. Ben moi, je dis qu'il y a un Dieu, il existe, et il y a un diable, et il existe aussi. Oui. Et ils sont pas copains-copains. Ça, c'est certain. Et pourtant, une parole sibylline, on pourrait dire, qui passe inaperçue, ce qu'un homme aura semé, il récoltera. Ça, c'est la parole de Dieu. Les hommes sont téméraires. Ils sont provocateurs, ils sont fanfarons, ils sont hardis dans le mal en disant « Mais Dieu n'existe pas, faisons ce que nous avons envie de faire, car mangeons et buvons, et demain nous mourrons. » Parce que demain, mais la vie c'est pas de manger et boire, seulement, moi je bénis le Seigneur d'avoir de quoi manger tous les jours, hein. Quand on fait la comparaison, il y en a tellement encore hein, qui n'ont rien. Mais je me dis, ça fait partie d'un moyen. Donne-moi, Seigneur, de bien compter mes jours et de ne pas vivre uniquement pour tout simplement ce que je mange, la manière dont je m'abrite, une belle maison, un palais, une piscine, etc. Bientôt, il n'y a plus d'eau. Hein. Alors la piscine, vous allez pouvoir plonger sur le béton. Mais bon, toujours est-il que tout ça, ce sont des réalités, mais qui font vivre. Ouais, il y a des belles voitures en ce moment. Hein. On rencontre des belles Tesla. On rencontre des nouveautés dans l'automobile. Moi, je me dis, mais pourquoi pas, après tout. Mais je veux dire que ce n'est pas ça ce qui nous fait vivre. Parce que, comme je l'ai dit souvent et je le répète, ça m'est arrivé de faire souvent des sépultures. Hein. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas de camion de déménagement qui amène jusqu'au cimetière. Hein. Pas de camion de déménagement. Vous laissez tout. On est venu avec rien, nous dit Job, et nous repartirons avec rien. Par contre, notre vie, elle est précieuse. Dieu nous a donné un temps de vie. Et ce temps de vie, comment nous allons l'utiliser? Est-ce que nous allons nous laisser porter par la vague? Par, comment on appelle ça, vous savez, dans le sud de la France, qui emmène les gens dans le large? Hein, il y a un nom. Hein.
Les baïnes.
Les baïnes, voilà. Et on se laisse porter. Alors, si vous voulez être sauvé, il faut se laisser emporter par la baïne. Ça, c'est certain. Ça, c'est une des réalités. Mais si vous voulez lutter pour avoir tout ce que vous voulez, eh bien, elle va vous emporter au loin et vous ne reviendrez jamais. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que le monde, il emporte. Et il nous pousse très, très loin, au milieu de l'océan, où il n'y a rien du tout, c'est le néant. Et ce Dieu de la vie et du bien parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans le livre de Job ? Mais nous n'y prenons pas garde. Vous savez qu'il y a deux courants. Il y a le courant des athées, de ceux qui ne veulent pas croire, de ceux qui sont, voilà, ils sont ce qu'ils veulent. Hein, on n'a pas à les juger, et voilà. Mais il y a aussi un monde d'authentiques chrétiens. Je ne parle pas du monde religieux, mais d'authentiques chrétiens qui ont accepté Jésus seulement dans leur cœur, dans leur vie, etc. Et ils ont fait depuis des siècles et des siècles un travail extraordinaire d'évangélisation dans le monde entier. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même par l'informatique, n'en déplaise peut-être à certains qui sont des conservateurs et qui se disent « Attendez, ça, c'est le diable !» Non, oui, il y a le diable. C'est sûr qu'il y a le diable, mais il n'y a pas que le diable. Parce que notre place à nous, c'est d'être là aussi, dans cette présence, dans ce moyen de l'utiliser pour faire annoncer que Jésus appelle tous les hommes à la conversion. Alors ils ne vont pas tous se convertir dans l'église, ils se convertiront dans leur chambre, ils se convertiront peut-être avec des amis, dans l'intimité, ceci et cela. Mais ce qui est important, c'est qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. Ça, c'est l'essentiel. Alors, nous n'y prenons pas garde, parce que c'est à faire dépasser aujourd'hui, hein, quand on parle de Dieu, hein, ça c'est clair. Dieu a donné au monde une réponse, et je vais terminer là-dessus, sous la forme d'un code de route. Vous vous souvenez de votre permis de conduire? D'ailleurs, je vous annonce qu'il va falloir changer le permis rose pour une petite carte. Moi, je l'ai déjà. Avec toutes les pathologies que j'ai, ils m'ont dit maintenant, terminé, hein, vous ne conduisez plus si vous n'avez pas l'autre, hein, l'autre carte. Voilà. Alors, code de la route, oui, un code de l'E. Et vous savez comment il s'appelle? L'écriture avec un grand E. Oui, c'est ça. C'est un code permanent qui a traversé les temps où des hommes et des femmes ont passé leur vie à traduire dans différentes langues pour que tout le monde sache qui est Jésus. Qui ont passé leur vie à l'imprimer, à véritablement, eh bien là, faire des choses. Ils ont donné toute leur vie pour ce code de vie. ce code de la route, on pourrait dire, pour vivre dans le bien, dans l'amour et la charité. C'est ce que nous avons lu. Et la charité, eh bien là, va s'amenuiser, elle va diminuer, elle va être réduite comme peau de chagrin, parce que, quelque part, finalement, le mal sera plus fort que l'amour et la vérité, et que la charité. Alors, ce code, c'est pour le bien, dans l'amour et la charité, pour qu'il ne nous arrive pas un accident mortel. Non, non, mais l'accident mortel, il est déjà là. C'est une parole de vie, tout simplement. Et il nous apporte, il nous a donné par la parole d'un homme d'exception qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis la parole de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Alors, on parlait de manger tout à l'heure. Hein? Je suis la source d'eau vive. Je suis la lumière. Tout ça est réuni. Puis il y en a d'autres, hein? Je crois qu'il y en a une trentaine, hein? Où Jésus se nomme, il se déclare au monde Jésus-Christ vivant. Parce qu'il est un sauveur qui nous éclaire dans nos nuits et nos errances, un moyen à notre disposition, accessible à tous. C'est la foi dans la grâce. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci et cela. Eh bien, Dieu existe, et il y a ceci et cela, et ça s'appelle tout simplement, comme nous l'avons lu, dans Éphésiens. Et moi, j'aime ça, c'est un des textes que j'apprécie vraiment grandement dans ma vie, hein. Quand il est dit ceci, Éphésiens, chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas le jugement de la loi dont nous avons parlé il y a un instant, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Tout le monde peut véritablement s'approcher de Dieu. Amen. Avec confiance. J'ai confiance en toi. On l'a chanté tout à l'heure, hein? Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas la peine de faire des élucubrations, de faire des exercices de ceci et cela, de mérite, de se faire valoir devant Dieu et devant les hommes. Ça ne sert à rien, c'est peine perdue, puisque quelqu'un a mérité ce qui nous était destiné, c'est-à-dire la mort, il l'a pris sur lui pour que nous puissions en être délivrés. Pardonnés et délivrés, c'est le don de Dieu. Et si tu connaissais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine, ce n'est point par les œuvres, comme toutes les religions, eh bien, prônent le salut par les hommes, les œuvres, pardon. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie en disant « Si moi aujourd'hui je vais aller au ciel, c'est grâce à moi. Hein. » Quel blasphème! Car nous sommes son ouvrage, créé, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions dans un monde qui est en déliquescence totale et complète. Combien de fois nous disons tous les deux, avec Myriam, c'est pas la vision du ciel qu'on a sur la terre aujourd'hui, c'est la vision de l'enfer. Et encore, on n'est pas malheureux. De quoi le monde se plaint-il? On n'est pas malheureux. Franchement, je me dis, mais c'est complètement, c'est fou ça. Alors les gens qui se plaignent, ils se plaindront toujours, et ils se plaindront finalement jusqu'à la fin. Ce code de vie ne supprime pas les aléas de voyage, du voyage, c'est vrai. Il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des tribulations, il y a toutes sortes de choses, il y a des faux départs, il y a des pertes, il y a toutes sortes de chagrins, on pourrait dire ça comme ça, toutes sortes de peines, ça c'est certain. Hein. Ça ne supprime pas les aléas, et de s'y soumettre, et de pouvoir continuer à croire, y obéir, et bien tout cela nous garde des inconsciences, des dangers, des imprudences et des excès en tout genre. Oui. Si je mets la foi devant et les tribulations derrière, alors à ce moment, je verrai toujours la lumière qui va s'ouvrir et qui m'apportera la délivrance. La conclusion. L'iniquité s'accroîtra et la charité disparaîtra. Il n'y a pas de source avec à la fois de l'eau amère et de l'eau douce. Pas possible. C'est pas possible. L'iniquité, le péché s'accroîtra et la charité disparaîtra. Elle va s'amenuiser, cet amour. L'article plus important de ce code de circulation routière dans la vie, pour la vie, tu aimeras le Seigneur et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que tu vas agir avec tes semblables comme toi tu aimerais qu'autrui agisse à ton égard. C'est une juste mesure, non? Oui, mais quelquefois, c'est pas souvent que ça arrive. Hein. Je te garde quelques bons... Hein, j'ai des souvenirs. Hein. Voilà, il y a des expressions, mais je ne peux pas les dire parce qu'elles sont tellement puériles. Mais toujours est-il que, voilà, ce qu'on aimerait que les gens fassent avec nous, pour nous, alors faites aux autres comme on voudrait qu'on vous fasse, tout simplement. Réchauffer la charité, ça, on parle de réchauffement de la planète, ça chauffe. Hein. Cette année, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me suis même acheté un climatiseur parce qu'on s'est dit, au moins, on va pas avoir trop chaud. Bah tiens, on l'a acheté et on s'en est pas encore servi. Bah, peut-être qu'au mois de décembre, ça peut arriver. Voilà, donc réchauffer la charité et pour neutraliser le désordre qui existe dans ce monde et l'iniquité, la pagaille, le péché, le mal, et tout ça, eh bien, ça va avoir tendance à disparaître pour faire place à un monde vivable. Ouais, je dis bien vivable, c'est vraiment petit, mais il faut aller jusqu'au bout. Alors, nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens, d'être rassurés, d'être visités et d'avoir les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert la porte, qui nous a ouvert le chemin et qui nous rassure tous les jours et dont nous faisons finalement, eh bien, de ses plans, les délices de nos cœurs et nous nous réjouissons d'avoir, eh bien, Jésus comme étant la lumière dans un monde de ténèbres. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tout ça, c'est vrai, ce sont des paroles pêle-mêle. On peut peut-être dire ça comme ça. Mais ce sont quand même des réalités observées. Ce sont peut-être, si nous voulons être vrais, si nous voulons être authentiques, d'abord par rapport à nous-mêmes, pas se mentir à soi-même, devant les autres aussi, et puis devant toi, cette authenticité, Seigneur, devant les réalités qui sont là, en effet, Père éternel, eh bien, du monde dans lequel tu nous as placés. Moi, il y a un texte qui me réjouit, c'est que nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été préparés. Alors le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, les chrétiens de l'Évangile, les chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, eh bien, nous voulons véritablement être des hommes et des femmes qui apportons au monde ce qui lui est le plus nécessaire aujourd'hui, c'est, en effet, la connaissance de Jésus-Christ et son appel pour être sauvé pour l'éternité. C'est pas seulement sauvé de cette terre, sauvé de cette planète, mais c'est de pouvoir entrer dans la dimension de la vie éternelle, dans de nouveaux cieux. Et nous voulons te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Visite-nous, chacun d'entre nous, et aide-nous, Père éternel, à décrypter eh bien, ces paroles qui sont des réalités, Seigneur, pour chacun, chacune. Et nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir donné ce livre qui est le code de la vie, le code de la route de la vie. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen.